de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, bonsoir. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le coin diplomatique et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, les magazines culturels, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici la voix de l'Indonésie présente le journal d'aujourd'hui avec Maudry. Il y a quelques événements à informer, entre autres. ONU prévient que la guerre à Gaza pourrait s'étendre à la Syrie. Erdogan appelle à ce qu'Israël soit jugé devant la Cour pénale internationale. Président Joko Widodo déclare que la guerre a un impact mondial. Palestine reste la priorité de la politique étrangère de l'Indonésie. Banque d'Indonésie s'engage à renforcer la position de l'Indonésie sur la scène internationale. Le ministre du Tourisme et de l'Économie créative a déclaré que la tendance du tourisme vert était en mesure d'attirer les investissements. Et Indonésie explique les progrès réalisés en matière d'action climatique à la COP28. Bonjour, chers auditeurs, voici les nouvelles en complet. L'envoyé spécial adjoint de l'ONU pour la Syrie, Najat Rohdi, a exprimé son inquiétude quant à la possibilité d'une escalade du conflit généralisé en Syrie au milieu de la guerre en cours dans la bande de Gaza. Comme cité par Antara mercredi, Rohdi, lors de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, la veille, a souligné la nécessité d'une désescalade en Syrie et dans toute la région du Moyen-Orient. Selon lui, ce week-end encore, les frappes aériennes israéliennes ont de nouveau touché l'aéroport de Damas et ont temporairement arrêté le service aérien humanitaire de l'ONU qui opère depuis cet aéroport pour servir les programmes humanitaires syriens. Soulignant que les attaques visant les infrastructures civiles constituent une violation du droit international, Rohdi a déclaré que ces attaques intervenaient après plusieurs autres frappes aériennes attribuées à Israël dans plusieurs régions de Syrie, à savoir Al-Kunaitra, Dera, Damas, la Suède et Homs. Des tirs d'artillerie israéliennes ont également été signalées dans le sud de la Syrie. Rohdi a ajouté que les informations faisant état d'attaque contre les troupes américaines dans le nord-est de la Syrie se poursuivaient également. Le directeur des opérations et du plaidoyer du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, OCHA, Edem Wosornu, a déclaré au Conseil de sécurité que la situation en Syrie reste désastreuse et que le peuple syrien a beaucoup souffert. Le président turc Tayyip Erdogan a déclaré au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qu'Israël devrait être jugé par la Cour pénale internationale pour ses crimes de guerre à Gaza. Lors d'une conversation téléphonique avant la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur Gaza mercredi, Erdogan et Guterres ont discuté des attentes de la communauté internationale concernant les attaques illégales d'Israël, de l'accès de l'aide humanitaire à la région et des efforts pour une paix durable, a déclaré le bureau présidentiel turc. Au cours de l'appel téléphonique, le président Erdogan a déclaré qu'Israël continue sans vergogne de piétiner le droit international, les lois de la guerre et les droits internationaux humanitaires sur les jeux du monde, et qu'Israël doit être tenu responsable des crimes qu'il commet devant le droit international. Le ministère turc des Affaires étrangères a déclaré que son ministre des Affaires étrangères, Hakan Fidan, participerait à une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU à New York. Dans un communiqué, Fidan tiendra également ce mois-ci une réunion avec les ministres des Affaires étrangères dans le cadre d'un groupe de contact de plusieurs pays musulmans mis en place par la Ligue arabe et l'Organisation de la coopération islamique OCI pour discuter de Gaza avec les pays occidentaux et autres. Le président indonésien Joko Widodo a conclu qu'il est peu probable que les tensions géopolitiques mondiales déclenchées par les situations de guerre israélo-palestinienne et russo-ukrainienne s'arrêtent dans un avenir proche. Le président a l'ordre du jour de l'Assemblée annuelle 2023 de la Banque d'Indonésie à Jakarta, mercredi 30 novembre. Soir, a demandé au secteur financier indonésien d'anticiper l'impact de la situation de guerre sur la croissance économique nationale. Le président a déclaré que l'impact mondial déclenché par la guerre avait entraîné une forte inflation des taux d'intérêt aux États-Unis, un ralentissement économique et même une crise immobilière en Chine, en raison de tensions géopolitiques soudaines. Le président a ajouté que l'impact de la guerre actuelle doit être anticipé ensemble, car la guerre perturbera les chaînes d'approvisionnement mondial, provoquera une flambée des prix des denrées alimentaires et une flambée des prix de l'énergie. Pour cette raison, le président indonésien a décidé à toujours participer à diverses conférences internationales afin d'observer l'impact géopolitique mondial sur l'économie nationale. En novembre, le président Joko Widodo a assisté au sommet de l'Organisation de la coopération islamique à Riyad, a rencontré le président américain Joe Biden et a également participé au sommet de l'APEC aux États-Unis. Le directeur du Moyen-Orient au ministère des Affaires étrangères, Baghouz Hendranin Kobarchi, a déclaré que la Palestine est l'une des priorités de la politique étrangère de l'Indonésie et continuera d'être une préoccupation de l'Indonésie. Baghouz l'a transmis via vidéo lors du talk show du Peacemaker Forum dans le contexte du mois de la solidarité palestinienne 2023 à Jakarta mercredi. Il a souligné que l'Indonésie n'entretiendrait jamais de relations diplomatiques avec Israël. Baghouz a également souligné que le soutien de l'Indonésie à la Palestine continuera à être apporté de diverses manières. Ce soutien commence par le renforcement de la coopération bilatérale avec le gouvernement palestinien dans divers secteurs, puis par l'utilisation de forums bilatéraux, multilatéraux et régionaux pour exprimer la lutte palestinienne pour l'indépendance et maintenir la question palestinienne au niveau international. L'Indonésie a également appelé à un cessez-le-feu permanent afin de ménager une certaine flexibilité pour mettre un terme à la violence et acheminer l'aide humanitaire. Pendant ce temps, l'ambassadeur palestinien adjoint en Indonésie, Ahmad Metheny, a remercié le peuple indonésien pour son soutien. Selon lui, l'Indonésie a été à l'avant-garde en faveur de la paix et des droits de l'homme. Le gouverneur de la Banque d'Indonésie, BI, Peri Warjio, a déclaré que son parti s'engage à renforcer la position de l'Indonésie sur la scène internationale à travers diverses politiques internationales. Peri, lors de l'Assemblée annuelle 2023 de la Banque d'Indonésie, à Jakarta mercredi, a expliqué que les futures mesures de Banque Indonésia pour renforcer la position de l'Indonésie passerait par l'élargissement de la coopération bilatérale entre les banques centrales, les transactions en monnaie locale et les accords de swap bilatéraux. L'accord de swap bilatéral est un accord signé par la Banque d'Indonésie avec la Banque centrale ou l'autorité monétaire d'un autre pays afin d'augmenter les transactions commerciales bilatérales. Banque Indonésia étend également sa coopération au niveau régional grâce à la connectivité de paiement de l'ASEAN. Selon Peri, Banque Indonésia se bat également pour les intérêts nationaux dans divers forums tels que le G20, le Fonds monétaire international et le financement de la charia au sein du Conseil de services financiers islamiques. Il a ajouté que son parti s'engage à renforcer les perceptions positives des investisseurs et des agences de notation à travers l'unité de relations avec les investisseurs de la Banque d'Indonésie. Le ministre du Tourisme et de l'Économie créative de la République d'Indonésie, Sandiaga Salahuddin Uno, a déclaré que la tendance des investissements verts en 2024 dans le secteur du tourisme indique que le tourisme est de plus en plus demandé par les investisseurs. Sandiaga Jakarta a ajouté mercredi que les investissements dans les entreprises de logiciels et de services d'information et de technologie, services informatiques, continuent de croître, démontrant le rôle croissant de la technologie numérique dans le secteur du tourisme. Sandiaga a expliqué que les investissements dans le secteur du tourisme à l'avenir seront orientés vers trois aspects principaux. Selon l'Organisation mondiale du tourisme, OMT, à savoir l'investissement dans les ressources humaines comme principale priorité du processus de développement, ainsi que l'investissement pour la durabilité comme objectif ultime du développement et l'investissement par la technologie et l'innovation comme catalyseur pour parvenir à la prospérité. Pendant ce temps, le directeur du Centre pour l'industrie, le commerce et l'investissement, INDEF, Andi Satrionugraha, a déclaré que l'investissement dans le tourisme durable est une tendance future, en particulier dans l'efficacité de la transition énergétique, y compris l'utilisation efficace de l'eau potable par les touristes. Le gouvernement indonésien expliquera les progrès réalisés en matière d'action climatique et les divers efforts visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre lors de la conférence des parties dans le cadre de coopération des Nations Unies sur le changement climatique ou COP28 à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Comme l'a rapporté Antara, la ministre de l'Environnement et des Forêts, Siti Nurbaya Bakar, a déclaré mercredi à Dubaï que l'objectif minimum de réduction des émissions attendu pour chaque pays est de 43% en 2030, de 50% en 2035 et de neutralité carbone en 2050. Dans ces conditions, l'Indonésie peut effectivement s'engager sur un montant de contribution déterminé au niveau national, NDC, de 43,2%. Il est même augmenté avec la deuxième NDC en 2024. Selon la ministre City, cet objectif a été augmenté dans la deuxième NDC en cours de préparation, notamment en augmentant l'absorption des gaz à effet de serre des mangroves et des herbiers marins. Qu'en gérant l'émission de méthane dans la question des déchets, la ministre City a expliqué les données vérifiées sur les émissions de carbone de l'Indonésie d'année en année. Les émissions de carbone de l'Indonésie ont été enregistrées à 1,84 gigatonnes d'équivalent dioxyde de carbone en 2019, puis sont tombées à 1,05 gigatonnes en 2020, 1,14 gigatonnes en 2021 et 1,20 gigatonnes en 2022. Bonjour, Gétard, c'est tout, les nouvelles d'aujourd'hui.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici l'accueil diplomatique ayant pour le titre Une thèse internationale de 3 minutes soutient les talents indonésiens. Un concours intitulé International de la thèse internationale de 3 minutes a été organisé par l'Association des étudiants et chercheurs indonésiens de 3e cycle en Australie, AIPSSA, au Tim Winton Lecture Théâtre, Curtin University, Perth, Australie, samedi le 25 novembre dernier. L'Association indonésienne des étudiants de 3e cycle est basée à Perth, en Australie occidentale. Le concours international de la thèse internationale de 3 minutes n'est pas seulement pour les étudiants de 3e cycle d'Indonésie, mais peut également être participé par des étudiants de divers autres pays. Dans un délai maximum de 3 minutes, les candidats doivent communiquer devant un grand public le sujet de recherche de leur mémoire ou de leur thèse. Le programme international de thèse en 3 minutes, lancé est développé par l'Université de Queensland, UQI, a trois objectifs principaux. Tout d'abord, développer les compétences académiques de présentation et de communication des étudiants. Deuxièmement, soutenir la capacité des étudiants à communiquer efficacement leur recherche en 3 minutes dans un langage acceptable devant un public non spécialisé. Troisièmement, créer des réseaux entre les universités. Le résultat de la thèse internationale de 3 minutes concerne les talents des étudiants indonésiens de 3e cycle aux yeux du monde international qui ont la possibilité de participer à des compétitions supérieures telles que l'Université 3MT et l'Asie-Pacifique 3MT. 10 participants ont participé à ce concours. Ils sont composés d'étudiants de 3e cycle de l'Université d'Australie Occidentale, UWA, l'Université Curtin et l'Université Murdoch. Le consul du protocole est le consul général de la République d'Indonésie à Perth, en Australie, Umar Badarsyah, dans sa déclaration samedi 25 novembre, a déclaré que le concours intitulé La thèse internationale de 3 minutes ou 3MT soutient le développement des talents des étudiants indonésiens. En dehors de cela, selon lui, le concours peut promouvoir des idées pour construire, développer et promouvoir l'Indonésie. Quelque chose d'assez unique qui a été réalisé lors de la thèse internationale de 3 minutes de cette année a été la gastrodiplomatie, à savoir offrir aux visiteurs le goût de la cuisine indonésienne typique soutenu par l'un des restaurants indonésiens les plus connus d'Australie occidentale. C'est auditeurs, c'était la quête diplomatique pour ce soir. C'est auditeurs, bonsoir, voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 30 novembre 1939. La guerre d'hiver entre la Finlande et l'Union soviétique commence. Les troupes russes sont entrées en Finlande et ont commencé à faire exploser des bombes à plusieurs endroits de la capitale finlandaise, Helsinki. Cela a ensuite déclenché une guerre qui a duré plus de 3 mois. Cette guerre est connue sous le nom de guerre d'hiver car elle s'est déroulée en hiver. Cette attaque étant jugée illégale, l'Union soviétique fut expulsée de la Société des Nations le 14 décembre de la même année. Passons à l'événement du 30 novembre 1988, Journée internationale de la sécurité informatique. La Journée internationale de la sécurité informatique a été introduite pour la première fois par l'Association pour les machines informatiques, ACM, en 1988. Cela a été fait après que l'attaque contre l'ARPANET qui a touché 10% de tous les ordinateurs connectés. À cette époque, les ordinateurs étaient très populaires dans les domaines de la recherche, des affaires et des opérations gouvernementales. Ainsi, avec l'utilisation croissante des ordinateurs, les risques de sécurité augmentent également rapidement, ce qui fait de la sécurité des données une préoccupation majeure. Par conséquent, la déclaration de la Journée internationale de la sécurité informatique vise à accroître la sensibilisation aux divers problèmes de sécurité informatique qui prédomine et se développe actuellement. Ceci est un rappel important pour que chacun se concentre sur le renforcement de la sécurité ordinateur. Nous terminons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 30 novembre 2004. L'avion MD-82 de Lion Air dérape. Le 30 novembre 2004, l'avion MD-82 de Lion Air portant le code de vol ZT-538 a dérapé lors de son atterrissage à l'aéroport Addis Soumarmo de Solo dans le centre de Java. L'avion a décollé de Jakarta avec la destination Surabaya et a transité par Solo, transportant 146 passagers. Lors de l'atterrissage à Solo, l'avion a dérapé et est entré dans une rizière. L'incident a fait 26 morts, 55 personnes grièvement blessées et 63 autres blessées. D'après le résultat d'une enquête menée par le Comité national de la sécurité des transports, KNKT, la cause de l'accident était due à l'inondation de la piste par l'eau ou à un événement connu sous le nom d'aquaplanage. Donc, l'avion a dérapé, n'a pas pu être contrôlé et a glissé hors de la piste. C'est auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Chers auditeurs, c'était la première chanson indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, d'Indonésie au monde. Et voici donc mon Indonésie.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici mon Indonésie, dont le titre est « L'investissement vert et les ressources humaines sont les principales clés du développement du tourisme à l'avenir ». Le ministre du Tourisme et de la Communauté Créative, en tant également chef de l'Agence du Tourisme et de la Communauté Créative, Sandiaga Salahuddin Uno, a déclaré que le développement du secteur du tourisme et de la Communauté Créative à l'avenir, en particulier dans le secteur de l'investissement, doit prêter attention aux questions de durabilité environnementale dans le concept d'investissement vert comme clé principale du succès. Le ministre du Tourisme et du Commerce Créatif Sandiaga, présent comme conférencier à Perspective du Tourisme en Indonésie 2024, mardi 28 novembre 2023, à Jakarta, a expliqué qu'un certain nombre d'institutions internationales prévoyaient divers défis au niveau mondial qui pourraient affecter la croissance sectorielle. Il s'agit notamment des conditions géopolitiques, des troubles économiques et des crises environnementales. De ces différents défis, l'attention des investisseurs sur la volatilité macroéconomique, une mesure statistique utilisée pour montrer la répartition des rendements sur un indice de marché particulier, a tendance à diminuer. Toutefois, cela diffère de la question du changement climatique qui préoccupe de plus en plus les investisseurs. Cette année, le niveau d'inquiétude a augmenté de 10% par rapport à 2022. Avec l'attention croissante accordée à la question du changement climatique, a déclaré le ministre Sandiaga Uno, il est temps de renforcer l'engagement en faveur d'un développement touristique de qualité et durable. Selon Sandiaga, l'Indonésie, avec ses diverses ressources naturelles potentielles et sa diversité culturelle, possède un fort potentiel de développement du tourisme vert. Ceci est prouvé par le secteur des énergies renouvelables qui a attiré le plus grand investissement total en capital au monde au cours des 4 dernières années. Le ministre Sandiaga Uno a expliqué que le ministère du Tourisme et de l'Économie créative, dans les différents programmes qu'il met en œuvre, fait toujours référence au tourisme de qualité et durable comme idéal principal du tourisme indonésien. L'une d'elles consiste à créer des villages touristiques dont l'objectif principal est d'assurer une répartition équitable du tourisme et d'augmenter l'économie locale. Outre le programme de villages touristiques, le ministère du Tourisme et du Commerce Créatif collabore avec des parties concernées pour présenter le calculateur d'empreinte carbone en tant que programme permettant de surveiller la production d'empreinte carbone pour les activités touristiques en Indonésie. En outre, sous la coordination du ministère de coordination des affaires maritimes et de l'environnement, le gouvernement tente de mettre en œuvre le programme économie circulaire bleu-vert. Selon Sandiaga, le programme comprend 3 programmes principaux, à savoir l'application d'instruments économiques environnementaux à travers les fonds pour les récifs coralliens, l'utilisation de véhicules électriques dans les destinations touristiques et la gestion durable des déchets. Outre les investissements dans les infrastructures, les investissements dans le développement des ressources humaines doivent également être une préoccupation majeure. Cela est également conforme au cadre d'investissement de l'OMC, d'ONU, dans le secteur du tourisme. L'Organisation mondiale du commerce des Nations unies, OMC, d'ONU, est une agence des Nations unies qui a le pouvoir de promouvoir un tourisme responsable, durable et universellement accessible. Pendant ce temps, environ 60% des investissements dans le secteur du tourisme ont été orientés vers les infrastructures. Pour cette raison, le ministre Sandiaga Uno a encouragé davantage d'investissements dans les ressources humaines afin de garantir la main-d'œuvre appropriée, résiliente et solide et de créer un avenir meilleur pour le secteur du tourisme. C'est Jeritar, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
hari nan berdebu bersama dirimu, yakin ku hadapi sambil merajut berdua anyaman benang angan yang kau tawarkan. Sekian lama tuh mengerti dirimu jadi misteri yang kian tersemi. Sekian jauh menilai kadar cinta tergali milikmu sejati.
Voilà, c'était la deuxième chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Changez de tard, maintenant nous allons présenter le magazine culturel.
Ces résultats, la plongée libre fait partie des sports nautiques extrêmes, car la plongée libre comporte des risques assez élevés pour les apnéistes. Pourtant, ce sport nautique reste toujours très apprécié des accros à l'adrénaline. S'il y a quelqu'un qui aime ce sport extrême, l'Indonésie pourrait être votre prochaine destination de voyage. L'Indonésie est connue dans le monde entier comme un pays doté d'une beauté sous-marine époustouflante. Il n'est pas surprenant qu'il existe de nombreux spots de plongée et plongée libre en Indonésie qui sont intéressants à explorer. L'Indo est Raja Ampat, situé dans les îles Raja Ampat au sud-est de la Papouasie. Le monde sous-marin de Raja Ampat ne fait aucun doute. Autrefois nommé meilleur site de plongée au monde par CNN en 2015, Raja Ampat contient 75% des espèces de coraux du monde, 1318 espèces de poissons, 698 mollusques et 577 types de récifs coralliens. Ces territoires, pas très différents de Raja Ampat, la mer de Banda possède une beauté et une diversité sous-marine époustouflante. Situé dans le centre des Moluques, le parc marin de Banda compte 310 types de récifs coralliens et 871 types de poissons. Il n'est pas étonnant que le parc marin soit souvent qualifié de paradis sous-marin. Il y a aussi le parc national de Bunaken au nord de Sulawesi. Appelé paradis sous-marin, le parc marin abrite 90 espèces de poissons et 390 récifs coralliens. En fait, le parc marin de Bunaken possède également une vaste étendue de forêt de mangrove. Chers auditeurs, vous devriez également visiter le parc national de Wakatobi dans le sud-est de Sulawesi. Connu dans le monde entier après l'expédition Wallacea en 1995, Wakatobi serait une zone riche en espèces de coraux. Au total, sur les 850 espèces de coraux qui comptent la planète, environ 750 d'entre elles se trouvent dans les eaux de Wakatobi. En fait, si vous avez de la chance, vous pourrez rencontrer les dauphins et des tortues lors de votre plongée en apnée à Wakatobi. Vous pouvez également faire la plongée libre sur le Loué de Sabang, Aceh, à la pointe ouest de l'Indonésie. Les eaux abritent des récifs coralliens et diverses espèces de poissons comme des raies et des dauphins. En fait, Sabang est également appelé le paradis mondial de la plongée libre. La compétition internationale de la plongée libre Sabang s'y tient régulièrement chaque année. C'est Zurita, c'était le magazine Culture pour ce soir. Merci de votre attention. À bientôt.
Serge Littard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique l'Indonésie en couleur. Cette fois, nous allons vous présenter ABBI 2023. Le prix du firmament fabriqué en Indonésie, ou ABBI 2023, est à nouveau décerné. ABBI est un événement d'appréciation pour les acteurs des micro, petites et moyennes entreprises qui sont capables de grandir et de continuer à développer leur entreprise en utilisant la technologie numérique. Le ministre du Tourisme et de l'Économie Créative, M. Sandiaga Uno, a estimé que le prix du firmament fabriqué en Indonésie 2023 est très stratégique parce que lors de son lancement le 14 mai 2020, on espérait que davantage de micro, petites et moyennes entreprises intégreraient la plateforme de marché et à la fin de 2021, il existe déjà 20 millions de micro, petites et moyennes entreprises. L'objectif est d'avoir 30 millions de MPME en 2024 et cette année est la troisième année où est décerné le prix du firmament fabriqué en Indonésie, qui est l'un des dérivés du mouvement national firmament fabriqué en Indonésie, ou GERNAS BBI. Madame Liz Zeni Mary, sous-adjoint par intérim au développement de l'économie créative du ministère de coordination des affaires maritimes et de l'investissement, a déclaré que ABBI 2023 se tiendra le 15 décembre 2023. Et pour l'instant, les hommes d'affaires qui sont devenus finalistes ont besoin de soutien du vote lors de cet événement. En 2023, le ministère de coordination des affaires maritimes et de l'investissement a mis en œuvre le mouvement national du firmament fabriqué en Indonésie. Est fier de voyager en Indonésie ou BBWI dans 10 provinces activées. Parmi ces 10 provinces, les meilleurs nominés ont été sélectionnés et un vote ultérieur aura lieu pour les choisir. La date limitée est le 13 décembre 2023. Il y a 7 aspects d'évaluation pour remporter l'événement de ABBI 2023. Entre autres, l'augmentation des transactions sur la plateforme, la sagesse locale, certification de base, les compétences numériques, les rapports comptables complets, les impacts et les avantages pour la zone environnante, ainsi que le potentiel du marché national et mondial. La mise en œuvre du firmament fabriqué en Indonésie 2023 est également soutenue par la Banque d'Indonésie, la BRI et Pegadaian. Le responsable du département de financement des micro et petites entreprises, PT Pegadaian, Sri Sapti Anggreni, a déclaré que Pegadaian soutient la mise en œuvre de ABBI 2023 parce qu'elle souhaite également jouer un rôle plus important dans le développement des micro, petites et moyennes entreprises. Pegadaian fournit un soutien aux MPME, y compris le financement et l'assistance pour les micro, petites et moyennes entreprises. Chers amis, c'était la rubrique L'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta.
Georges Letard, c'était l'autre belle chanson indonésienne. Et vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Et maintenant, nous continuons notre programme avec le magazine musical.
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour le magazine musical et cette fois, nous vous présentons une chanson de Padi. Padi est un groupe de musique pop-rock indonésien dont les membres sont Ari Trisosianto, guitariste, Andi Fadli Arifuddin, chanteur, Surendro Prasetyo Uyoyo, batterie, Rindra Risianto Nur, bassiste, et Satrio Yudi Wahono Upiu, guitariste. Padi a fait ses débuts dans le monde de la musique indonésienne avec le single intitulé Sobat qui a été inclus dans leur premier album studio intitulé La Indonesia en 1999. Les paroles de la chanson Sobat ont été écrites par Piu, le guitariste du groupe Padi. Dans une interview sur YouTube, Piu a déclaré que la chanson Sobat avait été créée sur la base de l'évision de son cœur. Cette chanson raconte l'histoire de quelqu'un qui tombe amoureux de la petite amie de son meilleur ami. Les paroles de cette chanson sont pleines de regrets et d'excuses. Bon, chers auditeurs, voici une chanson intitulée Sobat, chantée par Padi. Bonne écoute!
Semua ini bisa terjadi.
Bonjour Gétard, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @voiindonesia et d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia et regardez sur notre YouTube Voice Indonesia. Pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.